Le journal des Amériques et d'Haïti, tout de suite présenté par Anne Verdaguet. Bonjour.
Bonjour Gilles, bonjour à tous. On va revenir aujourd'hui sur la très longue audition hier de Michael Cohen. Plus de 7 heures devant le Congrès, l'ex-avocat de Donald Trump a livré un intense témoignage contre son ancien client, le président américain jugé raciste, escroc et tricheur. Dans la revue de presse, Romain Le Maresquier nous dira qu'on a enfin retrouvé la trace de Juan Guaido, le président par intérim autoproclamé vénézuélien qui avait quitté le pays, vous le savez, la semaine dernière pour aller en Colombie. Il est désormais au Brésil. On vous parlera aussi de la reprise des pourparlers au Nicaragua. Et puis dans notre dossier du jour, nous partirons en Bolivie, où l'on parle pas moins de 37 langues, dont l'aymara, une langue native. On entendra le reportage d'Alice Campagnol. C'est donc un portrait au vitriol qu'adressé hier devant la commission de contrôle du Congrès, l'ancien avocat de Donald Trump, Michael Cohen, a déroulé avec force détail pendant plus de 7 heures les fraudes, les menaces, les escroqueries menées selon lui par Donald Trump quand il travaillait à sa défense. Il l'a aussi traité de raciste. Problème, il dispose de très peu de preuves et il est poursuivi pour avoir menti lui-même devant le Congrès. Son témoignage a donc été immédiatement décrédibilisé par les élus républicains. Compte rendu avec notre correspondante à Washington, Anne Corpey.
La dernière fois que je suis apparu devant le Congrès, je suis venu pour protéger Monsieur Trump. Aujourd'hui, je suis là pour dire la vérité. D'emblée, Michael Cohen exprime ses regrets. J'ai honte de mes fautes et de ma loyauté déplacée. J'ai honte de ce que j'ai fait pour protéger Donald Trump. Avant de décrire le président en trois mots, il est raciste, c'est un escroc et un tricheur. Et Michael Cohen de détailler une série d'actions illégales menées par Donald Trump, de dénoncer son absence de scrupules, son souci exclusif pour ses propres intérêts. Mais les républicains ne se laissent pas faire. Leur stratégie, attaquer l'ancien avocat qui doit bientôt purger une peine de 3 ans de prison pour fraude, violation de la loi électorale et parjure. Mark Green, élu républicain.
Personne ne peut croire à la crédibilité de ce type. Il va dire ce qu'il veut pour atteindre son but personnel. C'est un faux témoin. Sa présence ici est une parodie.
Mais Michael Cohen ne se laisse pas faire.
J'ai fait pendant 10 ans ce que vous êtes en train de faire. J'ai protégé M. Trump pendant 10 ans. Et je peux seulement mettre en garde ceux qui suivent M. Trump, comme je l'ai fait aveuglément. Ils vont souffrir et subir les conséquences, comme moi.
À l'issue de l'audition, le président de la Commission salue une journée historique. C'est un combat pour l'âme de notre démocratie, lance Elijah Cummings avant d'ajouter « Je crois que Michael Cohen a dit la vérité ». Anne Corpey, Washington, RFI.
La revue de presse des Amériques à présent avec vous, Romain Le Maresquier. Bonjour.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
À la une aujourd'hui, donc, cette audition de Michael Cohen que le Washington Post qualifie aujourd'hui d'explosive.
Oui, une audition explosive, mais pas sur de nouveaux faits, titre ce matin le quotidien, qui explique en préambule ce qu'il faut retenir de cette audition. Le président Trump est un menteur au caractère défectueux, peut-être même un criminel. Les détails apportés par l'ancien avocat personnel de Donald Trump confirment ce que beaucoup savaient déjà. Le président a menti sciemment aux Américains. Il a violé des lois sur le financement des campagnes. Il connaissait les intentions de WikiLeaks de révéler des informations gênantes sur sa rivale Hillary Clinton. Pour le Washington Post, Michael Cohen hier a confirmé que le dossier du président en matière de mensonges et de dissimulation était vraiment bien rempli.
Et une audition marquée, Romain, par le jusqu'au boutisme des élus républicains.
Oui, des élus qui n'ont eu de cesse de remettre en question la crédibilité de Michael Cohen sans prendre le temps de regarder les preuves apportées, détaille le Washington Post. Des élus qui, par contre, n'ont pas cherché à défendre leur président, souligne USA Today. Plutôt qu'ignorer les allégations de M. Cohen, ses élus auraient mieux fait de suivre ses conseils, estime le Washington Post, qui reproduit une déclaration de Michael Cohen. De plus en plus de personnes qui soutiennent Donald Trump comme moi, aveuglément, vont subir les mêmes conséquences que moi. Une analyse du Washington Post que partage également l'éditorialiste de USA Today, qui s'interroge sur l'aveuglement de ses élus républicains.
L'autre actualité américaine, Romain, c'est la fin précipitée du sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un.
Oui, pour l'instant, la presse américaine ne détaille pas ce qui a précipité justement la fin de ce sommet qui devait durer encore quelques heures et qui devait s'achever par la signature d'un accord entre les deux dirigeants. Seule précision, la Corée du Nord réclamait la levée de toutes les sanctions à son encontre, ce qu'a refusé de faire Donald Trump, comme il l'a confirmé lors d'un court discours, avant de quitter le Vietnam à bord d'Air Force One tout à l'heure. Un départ qui ne signifie pas pour autant la fin des discussions, comme le laisse entendre le New York Times.
Direction le Nicaragua, à présent Romain. Hier, une première réunion dans le cadre de la reprise du du dialogue entre le gouvernement de Daniel Ortega et l'opposition s'est donc tenue et le moins que l'on puisse dire, c'est que ces discussions s'annoncent compliquées.
Oui, alors si aux premières heures de la journée d'hier mercredi, cela semblait bien engagé suite à l'annonce par les autorités de la libération de prisonniers politiques, une centaine selon la Prensa, la première rencontre entre les différentes parties a été pour le moins tendue. Il s'agissait dans un premier temps de définir les modalités, les règles pour ce dialogue. 12 points étaient à l'étude selon la Prensa. Les deux parties se sont mises d'accord sur les 9 premiers points, mais pas sur les 3 derniers, les plus sensibles, puisqu'il s'agit notamment de trouver un accord sur le garant de ce dialogue et sur un éventuel médiateur.
Et justement, les autorités au Nicaragua, Romain, ne veulent pas du secrétaire général de l'Organisation des États américains comme garant.
Oui, Luis Almagro était le premier, semble-t-il, le seul choix de l'Alliance civique pour la justice et la démocratie, qui rassemble différents secteurs du pays et une bonne partie de l'opposition. Mais les autorités ne veulent pas en entendre parler, détaille le quotidien. L'évêque de Matagalpa, Rolando Alvarez, a quant à lui été prié de quitter les lieux par les autorités, qui estiment qu'il fait partie des plus fervents opposants au régime, précise le quotidien Hoy. Les discussions doivent reprendre aujourd'hui, toujours à huis clos, et normalement, les deux parties devraient communiquer sur ces fameux 12 points abordés une fois la feuille de route de ces négociations clairement définie. Des négociations scrutées par l'armée nicaraguayenne, selon la Prensa, puisque cette dernière n'a pas hésité à diffuser un communiqué hier dans lequel elle dit se joindre aux souhaits des Nicaraguayens pour qu'une solution soit trouvée le plus rapidement possible pour mettre fin à cette crise.
On parle maintenant du Venezuela, Romain, où la tension reste toujours aussi élevée et l'absence de Juan Guaido, le président autoproclamé par intérim, n'invite pas à l'optimisme.
Oui, où est donc passé Juan Guaido? C'était la question que tout le monde se posait hier au Venezuela. Le président par intérim avait annoncé qu'il rentrerait bientôt au Venezuela, alors que Nicolas Maduro n'avait de cesse de répéter qu'il allait devoir faire face à la justice. Finalement, hier, en fin de journée, le quotidien brésilien La Folha de São Paulo a informé ses lecteurs que Juan Guaido était arrivé au Brésil, à Brasilia plus précisément, où il devrait rencontrer aujourd'hui le président brésilien, Jair Bolsonaro, annonce El Nacional. L'Assemblée nationale vénézuélienne, dont Juan Guaido est également le président, a informé hier qu'elle avait donné son aval à son absence du pays pour une période de 5 jours, sans pour autant préciser quand il rentrerait à Caracas.
Et justement, Romain, en attendant ce retour de Juan Guaido, l'Assemblée nationale à Caracas s'est réunie sans lui hier pour une session extraordinaire à la suite de l'échec de l'entrée de l'aide humanitaire dans le pays. Et cette session a bien mal commencé puisqu'un syndicat chaviste d'employés du Parlement a fait irruption dans l'hémicycle pour manifester son opposition aux députés. Le reportage sur place de notre correspondant Benjamin Delisle.
Alors que les députés commencent à entrer dans l'hémicycle, un incident éclate devant la porte de la chambre. Une dizaine d'employés chavistes du palais législatif tentent de forcer le passage entre les députés et les journalistes. Le député José Guerra assiste à la scène avec un air de déjà-vu.
Ils veulent confisquer le Parlement pour que nous ne puissions pas faire notre travail. Ça arrive souvent ici. C'est très compliqué pour nous de travailler. On tente de nous en empêcher, mais on fait de notre mieux.
Après quelques minutes de cris et de cohues, la sécurité maîtrise les employés chavistes. Les employés sont évacués dans la cour où la tension reste vive. Un garde assure que l'un d'eux est armé. Mais ils sont tout de même relâchés, s'attardent en scandant des Viva Maduro et en insultant les députés. Luis Blanco est l'un d'eux.
On voulait simplement entrer dans la chambre pour afficher une pancarte contre l'intervention des États-Unis ici au Venezuela. Un groupe escortant certains parlementaires illégitimes a agressé notre camarade. On s'est interposé et ils nous ont attaqués. Mais nous sommes déterminés, c'est nous les propriétaires de ce Parlement, nous les travailleurs.
Finalement, la session parlementaire peut commencer. Le pire a été évité, mais la scène reflète bien la tension qui règne dans le pays à peine 4 jours après les violences du 23 février. Et à en croire les menaces des autorités, le retour de Juan Guaido ne devrait pas apaiser la situation. Benjamin Delisle, Caracas RFI.
2019, année internationale des langues autochtones selon l'UNESCO. La cérémonie de lancement a eu lieu à New York. Le président bolivien Evo Morales était présent. Son pays compte en effet 37 langues officielles, dont 36 sont des langues dites originaires. Et si pendant des décennies, il était bien mal vu de parler le Guarani, par exemple, aujourd'hui, un vent nouveau souffle sur le pays. Exemple avec l'Aymara et le Quechua, les deux langues autochtones principalement parlées par près de 4 millions de personnes dans le pays. Le reportage d'Alice Campagnol.
Dawa.
Ya.
Wa.
Ya.
Wojtek est allemand et il est en plein cours d'Aïmara. L'Aïmara est une langue parlée dans les Andes, une langue native, c'est-à-dire parlée avant l'arrivée des Espagnols, déjà du temps des Incas. Et si Wojtek a décidé de l'apprendre, c'est pour une raison bien précise.
Je participe à un projet de recherche sur les effets de la pollution du lac Titicaca. Donc je travaille dans une communauté là-bas autour du lac et il faut que je sois en mesure de bien communiquer avec les gens. Donc j'apprends l'aïmara.
Sa professeure Brigida a appris l'aïmara avant de parler l'espagnol, comme c'est le cas de beaucoup d'enfants qui grandissent en milieu rural en Bolivie.
J'ai appris l'aïmara dès ma naissance. J'ai grandi avec mes grands-parents qui étaient, comme on dit, aïmara fermés, pour ma grand-mère en particulier. L'aïmara était sa langue maternelle, mais surtout sa seule et unique langue. Jusqu'à mes 5 ans, je ne parlais qu'aïmara. Et donc, quand je suis entrée à l'école, j'habitais à la campagne et c'est là que j'ai appris l'espagnol.
Dans cet institut de langue en plein cœur de La Paz, Brigida donne essentiellement des cours à des étrangers. Dans la salle de classe juste à côté, par exemple, c'est Samuel, australien, qui lui prend des cours de quechua.
Je suis musicien et je joue beaucoup de musique andine. Je vois bien que je vais vivre pas mal de temps dans les Andes, pas seulement en Bolivie, mais aussi au Pérou et en Équateur. Donc le quechua me paraît très important pour mieux comprendre la culture.
Mais cette langue n'est pas réservée qu'à la musique traditionnelle. Le dernier tube en quechua de Luzmila Carpio, une chanteuse très connue de musique bolivienne, est pour le moins étonnant. C'est un duo avec le groupe de métal industriel Alcoholica La Cristo. Les langues natives ici ne sont donc pas réservées au passé, elles vivent dans l'actualité. Et notamment grâce à Hakiaru, un collectif de jeunes aïmara qui travaille entre autres à la traduction d'applications. Et ils ont logiquement commencé avec Facebook.
Là, c'est le J'aime Kusawa. Ça, c'est partagé.
Edwin est le président de l'association. Il explique que les réseaux sociaux font beaucoup de bien aux langues natives.
Jusqu'à mon entrée à l'université où j'ai pris des cours d'aïmara, je ne savais pas écrire l'aïmara. Je le parlais, mais je ne l'écrivais pas. Et aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, j'améliore énormément mon écriture. Les images humoristiques partagées sur Facebook, les conversations sur WhatsApp, tout ça, on le fait en aïmara. Et aujourd'hui, eh bien, je me défends bien.
Et désormais, les langues natives, au moins les principales, ont complètement intégré la technologie. Il existe par exemple plusieurs applications mobiles pour apprendre l'aïmara ou le quechua.
Pataka, Pusitunka.
Il semblerait donc qu'en Bolivie, il y ait de l'espoir quant à la transmission des langues originaires. Même s'il est vrai que sur les 36 langues natives reconnues par l'État, certaines ne sont plus parlées que par à peine une dizaine de personnes. Alice Campagnol, La Paz, RFI.
Go Naïve, 90.5 FM.
Et on retrouve à présent Franz Duval du Nouvelliste en Haïti. Pour l'actualité haïtienne, on va évoquer aujourd'hui le carnaval, grande fête populaire en Haïti qui finalement ne devrait pas avoir lieu.
Le comité organisateur du carnaval national en Haïti a tenu une conférence de presse mercredi pour annoncer que les festivités qui devaient se tenir dimanche dans la ville des Conaïves à 150 km de Port-au-Prince n'auront pas lieu. Le gouvernement n'a pas le temps, techniquement, de bien organiser la fête, a été l'argument principal des membres du comité. Pour une fête annuelle attendue depuis des mois, l'explication n'a pas vraiment convaincu. D'abord, la ville des Gonaïves est le fief de l'un des opposants déclarés au président Jovenel Moïse, le sénateur Yuri Latortue. Ensuite, les festivités tombent après des jours de manifestations et de dénonciations de la mauvaise gestion du gouvernement. Le départ du président Moïse est même réclamé par l'opposition radicale en Haïti. Difficile dans ces conditions de faire une grande fête, d'autant que le pays est en urgence économique et que les ressources publiques sont au plus bas.
Un carnaval devenu politisé en Haïti, France.
Annuler les festivités avec un délai de 5 jours pose un problème. Le budget est disponible, il faut bien le dépenser. Depuis 2012, le carnaval dit national est devenu une affaire d'État, comme le carnaval ne l'avait jamais été auparavant en Haïti. La grande fête qui se déroulait à Port-au-Prince, exclusivement, est devenue nomade pour en majorer le budget. D'un carnaval à la capitale, au Cap-Haïtien et à Jacmel, Haïti est passé à une dizaine de défilés et de cacicas carnavalesques. Au passage, on a politisé la fête, elle est devenue un enjeu de pouvoir, la cible de contestation. Le gouvernement haïtien, cette année, avance masqué pour faire au moins un petit carnaval ici et là. La mairie de Port-au-Prince a décidé de ne pas faire la fête. Restent les villes de province.
Et au même moment, France, la crise politique et économique se poursuit en Haïti.
La dernière initiative du président Jovenel Moïse de monter un comité pour promouvoir un dialogue interhaïtien n'a pas eu de succès jusqu'à présent. Ce vendredi, débarque à Port-au-Prince le sous-secrétaire aux affaires politiques, David Hall, numéro 3 du département d'État américain. Il vient pour évaluer la situation et rencontrer les différents acteurs partis de la crise haïtienne. Une mission du Fonds monétaire international est déjà en Haïti pour discuter avec les autorités haïtiennes, cette fois dans le cadre d'une possible relance de l'économie.
Merci Franz Duval, notre partenaire du Nouvelliste. Et tout de suite, l'actualité ultramarine avec le journal La Première Caraïbe, présenté par Benoît Ferrand. Bonjour Benoît.
Bonjour Anne.
À la une, en Martinique, le COLDEM comprenait le Centre opérationnel de lutte contre la délinquance environnementale est désormais opérationnel.
Et son rôle à ce COLDEM sera, entre autres, de simplifier les procédures administratives en matière de lutte. Lutte, par exemple, contre les dépôts sauvages de déchets, comme les VHU, les véhicules hors d'usage, mais encore le braconnage des espèces protégées ou les nuisances sonores. Le procureur de la République de Fort-de-France, Renaud Godel, est au micro de Franck-Edmond Mariette.
Il y a des actions qui sont d'ores et déjà menées par un certain nombre d'acteurs qui interviennent dans ce domaine-là. Mais que ces actions-là ne sont pas encore suffisamment coordonnées. C'est-à-dire qu'on peut se rendre compte dans plusieurs cas qu'il y a une administration qui agit sur un sujet. Une autre administration qui va agir sur le même sujet mais par un autre biais. Et une troisième également sur encore un autre biais qui va traiter du même sujet. Mais sans qu'il y ait une concertation suffisante. Et par conséquent, l'objectif du COLDEN, c'est de permettre cette concertation entre les différentes administrations qui interviennent en matière de protection de l'environnement. Si on agit uniquement d'un point de vue administratif, on n'arrivera pas à grand-chose. Si on agit uniquement d'un point de vue judiciaire, on n'arrivera pas non plus à grand-chose. En revanche, si on agit tous ensemble, de manière concertée, et là, on arrivera sur des résultats tangibles, parce que les individus sauront qu'elles seront prises dans un étau qui sera formé d'une première branche consistant dans les sanctions administratives et une deuxième branche consistant dans les sanctions judiciaires.
À Cayenne, adieu veaux, vaches, cochons, couvées, au grand désespoir de certains élus guyanais qui bâtissaient déjà des châteaux en Espagne, eh bien la compagnie Total, cette officielle, n'a pas trouvé de pétrole au large du département de l'Amérique du Sud. Malgré un investissement de 100 millions d'euros en 2 mois, Total n'a donc pas trouvé de pétrole. La compagnie a encore jusqu'au mois de juin pour prospecter, mais elle a décidé de tout arrêter. Une grosse déception pour les élus de Guyane, donc certains d'entre eux en tout cas, et pour le directeur général de Total Guyane, Olivier Wattez.
Nous avons terminé nos opérations de forage en début de semaine et les résultats du puits sont négatifs. Nous n'avons pas trouvé d'hydrocarbures. Alors bien sûr, nous sommes très très déçus de ce résultat. On avait démarré la campagne de forage mi-décembre. Les opérations sont très bien déroulées, sans incident. D'ailleurs, je remercie l'ensemble des équipes pour ce travail formidable qu'on a fait pendant environ 2 mois. On a fini avec quelques jours d'avance sur les prévisions. Mais malheureusement, le puits n'a pas trouvé d'hydrocarbures. Et encore une fois, nous sommes très déçus.
Bonne après-midi, Anne. À demain.
Merci beaucoup, Benoît Ferrand, pour ce journal La Première Caraïbe. C'est la fin de ce journal d'Haïti et des Amériques. On se retrouve demain, même heure, 14h10 à Paris.